en 2014. C'est déjà au nom de la défense des Ukrainiens russophones que Poutine envoie ses soldats en Crimée, en soutien aux séparatistes pro-russes. Le 18 mars 2014, la Crimée est rattachée à la Russie. Une annexion pure et simple, suivie d'une insurrection pro-russe dans le Donbass, à l'est de l'Ukraine. Les régions de Donetsk et de Lugansk sombrent dans la guerre.
La catégorie film documentaire de plus de 40 minutes qui était proposée sur la 30e édition du FIGRA, Festival international du grand reportage d'actualité et du documentaire de société, qui s'est déroulé à Douai du 30 mai au 4 juin, il y avait pas mal de films sur la situation en Ukraine. Ukraine, la fin d'un monde russe, de Xenia Bolshakova et Philippe Lanier en faisait partie. Un film qui propose un voyage au cœur de l'identité ukrainienne, une identité en construction qui s'affirme sur tout le territoire à mesure que les chars russes progressent en Ukraine. Entretien avec Xenia Bolshakova pour en savoir plus sur ce documentaire, interview qui est agrémentée de la bande-annonce du film. Xenia, bonjour.
Bonjour.
Comment s'est passée la rencontre avec le public et après le visionnage de votre documentaire ?
C'est toujours des rencontres très très sympas parce que ces films on les fait pour un public, on les fait pas juste pour nous et moi ce qui m'intéresse toujours c'est d'entendre les questions qui suivent une projection et aujourd'hui je les ai trouvées particulièrement intéressantes.
On sait que évidemment votre documentaire a été tourné très très vite juste après le début des événements hein, au mois de février 2022. Comment ça se passe quand on est reporter, quand on doit aller sur le terrain
D'abord il faut, en tout cas dans le cadre de notre travail puisqu'on fait des documentaires, il faut trouver un diffuseur. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'avoir une bonne idée. On ne fait pas du news, on ne dépend pas d'une rédaction qui produit du contenu tous les jours, quotidiennement, pour le journal, par exemple. Donc, nous, notre première contrainte, c'est de trouver une chaîne de télévision, un diffuseur qui sera intéressé par un projet qu'on va proposer. En l'occurrence, sur le conflit en Ukraine, tout allait déjà très, très vite. C'est-à-dire que dès les premiers jours, la Russie déclare la guerre le 24 février, commence à bombarder des quartiers résidentiels de Kiev. Le front bouge à l'est, le front bouge au nord. Et nous, la question qu'on se pose, c'est comment est-ce qu'on peut raconter ça d'un point de vue qui soit pas justement du hot news, du hard news, c'est-à-dire pas les avancées des troupes ou l'état des lieux militaires. Et on s'est réunis en une sorte de petite cellule de crise à chez Kappa avec mes producteurs Franck Duprat, Anthony Oriange et Philippe Lanier qui co-réalise ce film avec moi. Et ce qu'on s'est dit, c'est que une des questions essentielles qui tournait en boucle dans la bouche de beaucoup de nos interlocuteurs qui n'étaient pas journalistes, c'est mais ah bon, les Ukrainiens, c'est pas des Russes ? Mais alors du coup, mais pourquoi ils se font la guerre ? Mais on croyait que c'était le même pays. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait une méconnaissance aussi de ce qu'était l'Ukraine, de ce qu'était la Russie, de ce qui a pu se passer dans l'histoire de ces deux pays depuis la chute de l'URSS. Et moi, en tant que franco-russe, pour le coup aussi, c'est des questions qu'on m'a souvent posées. On m'a dit mais comment ça se fait que vous vous mettez sur la gueule comme ça ? Et donc, la question de l'identité s'est très vite posée et imposée. Et c'est pour répondre aussi à un certain nombre de questions sur ces identités, qui sont des identités différentes, même si elles sont évidemment proches du fait de leur histoire. C'est pour répondre à ces questions qu'on a essayé de réfléchir à cette notion de monde russe, telle que imaginée par les tsars et puis dans la foulée Vladimir Poutine et d'autres dirigeants. Un monde voilà, où vivent tous les peuples slaves ensemble, dirigés par un grand maître qui serait quelque part à Moscou, au Kremlin. Questionner l'identité culturelle, l'identité religieuse, et essayer de répondre à toutes les questions qu'on nous posait aussi, à nous dans notre entourage. Voilà.
Évidemment aussi, Georges, lors de la conférence de presse, le délégué général du FIGRA, évoquait justement l'importance des reporters de guerre et des photographes aussi, qui vont sur le terrain, parce que c'est les premiers témoins qui rendent compte justement de ce qui se passe pour mieux comprendre les choses. Et on sait que c'est pas évident et que c'est parfois très compliqué, c'est très risqué. Pour revenir aussi sur la mort d'Arman Soldin, le photographe de l'AFP, dernièrement, comment ça se passe quand vous êtes là-bas, même s'il y a des accréditations spéciales, j'imagine, et vous n'allez pas au front, forcément ?
Il y a évidemment beaucoup de stress, beaucoup d'appréhension. Il y a de l'adrénaline aussi dans les situations de danger immédiat. Après, c'est des terrains pour lesquels on se prépare. C'est-à-dire qu'il y a de la préparation en amont. Souvent, les journalistes qui partent sur ce genre de terrain passent par une sorte de petit entraînement, hein, qui s'appelle, d'ailleurs, c'est des entraînements pour aller sur des terrains de conflit. Il y a aussi pas mal de mesures de sécurité qui sont prises. On ne part pas comme ça dans un pays en guerre. On part avec des assurances, d'abord, qui coûtent très très cher à nos rédactions. On part avec des gilets pare-balles, avec des casques, avec des protocoles de sécurité. On part avec des règles qu'on établit en amont avant d'aller sur place. Et puis surtout, il faut sentir un peu le terrain. C'est-à-dire que si on comprend que c'est trop dangereux, la plupart du temps, on essaye de ne pas y aller. Moi, en l'occurrence, je n'ai pas eu à aller vraiment directement sur la ligne de front, comme c'était le cas d'Arman, qui était tout le temps là-bas, pour les films que je fais. Mais rien que se trouver à Kiev au début de la guerre était déjà extrêmement dangereux parce que les bombes pleuvaient tout le temps constamment sur la ville, sur la capitale et sur toute la région. Donc même si on est dans un état psychologique où on se dit « Ok, j'ai pris toutes les mesures de précaution préalables, je me sens en sécurité avec mon gilet pare-balles dans ma voiture », en fait, n'importe quel éclat d'obus peut traverser ta vitre et puis te tuer, ou n'importe quelle bombe peut tomber sur ton hôtel, ou voilà, même dans des situations où on a l'impression d'être en sécurité, on ne l'est pas. Donc il faut être extrêmement vigilant, faut faire confiance à son équipe, voilà.
J'imagine aussi que vous avez un fixeur qui vous accompagne ?
Bien sûr. On a toujours, souvent à l'étranger, on a toujours des journalistes locaux qu'on appelle des fixeurs entre nous, mais la plupart du temps, c'est quand même des journalistes qui bossent aussi dans des médias de leur pays respectif, qui nous aident à organiser des interviews, qui nous aident à trouver des histoires, qui nous traduisent aussi parfois la langue quand on ne la comprend pas ou quand on ne la parle pas. Moi, j'ai certains interlocuteurs ukrainiens, par exemple de l'ouest de l'Ukraine, que je ne comprends absolument pas. Des Ukrainiens de l'est de l'Ukraine ou qui parlent une sorte de mélange avec pas mal de mots russes, j'arrive vraiment à communiquer avec eux sans problème. Donc c'est important d'avoir quelqu'un qui connaît non seulement des représentants des autorités locales, qui peut organiser des rencontres, des interviews, et qui peut aussi avoir l'œil sur des histoires que nous on ne verrait pas forcément parce qu'on vient pas d'ici. Donc le rôle du fixeur est extrêmement important. Et aussi par rapport à la question sécuritaire. Enfin, c'est un relais très important. Ils vont me dire non, là surtout il faut pas du tout aller là-bas, même si cet immeuble a l'air inoffensif. Il y a une semaine, une roquette est tombée et la zone a pas été déminé. Donc c'est aussi leur connaissance du terrain qui nous permet à nous de faire notre travail correctement.
Ce qui est intéressant dans votre documentaire, et on l'évoquait juste un petit peu avant, vous plongez aussi un petit peu dans l'intimité des gens, notamment ce témoignage de ce réserviste qui dit que Poutine, de par ses exactions, a soudé le peuple ukrainien à jamais.
Oui, parce que ce que Poutine voulait faire, c'était de démontrer qu'il n'y avait pas d'identité ukrainienne, que c'était une sorte de sous-peuple de petits russes, comme les appelaient à l'époque les tsars. Et ce qu'il a fait, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire qu'il a soudé une nation. En fait, tout est allé de travers pour lui, quelque part. C'est ça aussi qui est intéressant. C'est-à-dire qu'il pensait que la guerre allait durer 3 jours et il avait vraiment des personnes dans le renseignement militaire russe qui lui disaient que Kiev serait prise en 3 jours et que les Ukrainiens allaient accueillir les soldats russes avec des fleurs à bras ouverts et que le 9 mai, ils allaient parader sur le Khrushchev, l'avenue principale de Kiev, en uniforme de parade. Il pensait gagner cette guerre très vite, il pensait que les Ukrainiens allaient plier, il pensait que le monde russe allait être uni et soudé à jamais et qu'il allait rentrer dans l'histoire comme le grand unificateur. Il s'est totalement planté sur toute la ligne. Et c'est incroyable d'observer ce soulèvement populaire qu'il y a eu en Ukraine. C'est-à-dire de voir à quel point les Ukrainiens ont pris conscience du fait d'être une nation, en fait. Et il y a un truc hyper beau. Et alors, les mauvaises langues disent, notamment en Russie, c'est des nationalistes, c'est des nazis. Mais en fait, il n'y a rien du tout de ça. C'est-à-dire que c'est juste, pour le coup, une prise de conscience du fait d'appartenir à un peuple uni qui a des valeurs auxquelles il croit et qu'il est prêt à défendre.
Paradoxalement aussi, il y a une certaine rupture de liens familiaux, notamment pro-ukrainiens, mais aussi russophones. Le témoignage de Yuri, par exemple, qui dit qu'il n'hésiterait pas du tout à frapper là où il faut frapper, même si c'est des gens de sa famille. C'est dur quand même d'entendre ça.
Il dit même qu'il n'hésiterait pas à tuer ses propres cousins si jamais il venait en Ukraine les armes à la main. C'est-à-dire que c'est même pas frapper. On est dans une situation de fratricide. Et ce qui est quand même aussi très douloureux dans toute cette histoire, c'est que il y a de nombreuses familles mixtes. On a, on le rappelle dans le documentaire, mais l'Ukraine compte quand même 8 millions d'Ukrainiens russophones, uniquement russophones.
Et surtout dans le Donbass, hein.
Pas seulement, pas du tout, parce que, vous voyez, Odessa est à 80%, c'est pas le Donbass, Odessa, c'est les bords de la mer Noire. 90% de la population est russophone, a toujours parlé russe, jamais ukrainien. Avant. maintenant, c'est en train de changer, le ratio est en train vraiment de s'inverser. Mais à Kiev aussi. Moi, j'ai beaucoup travaillé à Kiev. Et l'ukrainien, on l'entendait extrêmement rarement, même en 2010. Je couvrais les élections présidentielles à l'époque, où quand Yanukovych est réélu à la présidence. Je ne me souviens pas d'avoir entendu des gens parler ukrainien à cette époque-là, parce que c'était une ville aussi qui était très russophone. Et les choses vont radicalement changer à partir de 2014. Là où, quand on parle de famille, de drame personnel, c'est qu'il y a beaucoup de couples mixtes. Il y a énormément d'Ukrainiens qui sont mariés avec des Russes et vice-versa. Il y a beaucoup d'Ukrainiens qui sont installés en Russie parce qu'ils sont partis là-bas à un moment donné pour du travail et puis ils ont une partie de leur famille qui est restée en Ukraine. Et ces Ukrainiens qui sont en Russie, qui sont baignés de propagande de la télévision russe, ne croient pas leurs propres frères, sœurs, fils, femmes qui sont au pays et qui leur disent que des bombes leur tombent sur la gueule. Donc on est dans un... Il y a un réalisateur russe qui est génial, qui s'appelle Andrei Lachak, qui a fait un film sur la rupture familiale, sur les ruptures au sein des familles causées par cette guerre, sur la rupture du contact, en fait, sur l'incompréhension qui peut régner entre des membres d'une même famille face à ce conflit. Et ça, c'est un des drames aussi dans cette guerre, c'est l'impact intime qu'elle a chez des milliers, voire des dizaines de milliers de gens.
Beaucoup de rencontres également, et notamment au travers des yeux des enfants. Témoignage assez furtif, mais poignant, de ce petit garçon qui dit « Pour moi, la Russie n'existe plus ». À l'âge qu'il a, c'est quand même assez incroyable d'entendre de la part d'un enfant.
Il était extrêmement émouvant, ce petit garçon, Bogdan. En fait, l'histoire de cette famille, au premier jour de la guerre, eux habitent Kharkiv à l'est du pays. Kharkiv, c'est vraiment juste à côté de la frontière russe. Et leur maison se situait à côté de l'aéroport, d'un aérodrome militaire. Et cet aérodrome est bombardé. Et leur maison est détruite dès les premiers jours de la guerre, totalement détruite. La famille va fuir d'une façon extrêmement chaotique. Bogdan a perdu des copains, des garçons de son âge qui sont morts dans ces bombardements. Et quand ils arrivent, nous on les filme à Ouzhgorod, c'est vraiment l'ouest, la partie extrêmement occidentale du pays, à la frontière hongroise. C'est un gamin traumatisé, c'est un gamin qui, dès qu'il entend une alarme, rassemble ses affaires et court à l'abri. Et il y avait même cette scène, donc on voit, ils sont en classe, et c'est lui qui est le moteur, c'est lui qui dit à tout le monde il faut descendre, il faut y aller maintenant. C'est-à-dire que c'est un enfant qui va non seulement nourrir un trauma, nourrir probablement une haine vis-à-vis de ce pays qui a détruit sa maison, détruit son enfance, tué des copains, et il n'y aura pas de retour en arrière pour cette génération-là. Ces enfants-là, ils n'ont pas grandi, ils n'ont pas connu l'URSS, l'amitié entre les peuples, les voyages d'une ville à l'autre, une sorte de, je sais pas moi, d'idéologie, de culture commune. Il n'y a plus de culture commune, c'est terminé. Et il n'y aura plus de langue commune non plus, puisque même ce gamin qui était russophone, aujourd'hui, refuse de parler russe.
Il y a des rencontres aussi, également, notamment avec Andrei Kharkov, cet écrivain. Mais il y a aussi cette rencontre avec Sergei Popov, le scientifique, qui lui décide, il a peur même de lire sa lettre qu'il a écrite, justement, pour la paix. comment se sont effectuées ces rencontres? J'oublie aussi les journalistes, hein, les deux journalistes qui sont partis d'ailleurs en Géorgie pour pouvoir justement continuer leur travail. C'est des rencontres qui sont assez fortes, mais il y a quand même, on sent quand même une mobilisation qui est assez solidaire justement de ce peuple qui continue de lutter quoi qu'il arrive.
De la part de ces Russes, vous voulez dire qu'ils sont partis? L'astrophysicien, lui, il est toujours en Russie, il enseigne, et c'est pour ça qu'il a peur de son ombre et qu'il n'ose plus parler, parce qu'entre le moment où il signe cette lettre qui dénonce la guerre et passer la fameuse loi dite des fake news et du discrédit des forces armées, qui fait peser une épée de Damoclès terrifiante au-dessus de la tête de tout contestataire, c'est-à-dire potentiellement 15 ans de prison. 15 ans de prison pour dire la vérité ou dénoncer la guerre ou dire que la guerre c'est pas bien, ça peut vous mener quand même derrière les barreaux pour 15 ans. C'est très 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 long, 15 ans. Pour ceux qui sont partis, en fait, c'était une nécessité absolue pour des journalistes d'opposition comme Tikhon et sa femme Katia, puisque eux étaient eux-mêmes dans le viseur des autorités. Ne pas partir, rester en Russie, ça voulait dire finir en prison, clairement. Donc ils ont choisi de quitter le pays, ils ont choisi d'informer, ils ont choisi de prendre position contre la guerre et bien sûr de la dénoncer. Mais en tant que russe anti-guerre, en fait, il n'y a pas beaucoup de solutions. C'est soit tu restes dans le pays et tu te taires et tu ne dis rien et tu rases les murs, soit tu quittes ce pays. Donc c'est intenable, en fait, comme posture. C'est-à-dire que beaucoup aujourd'hui, en tout cas les personnes qui étaient j'allais dire les plus honnêtes avec elles-mêmes, ont plié bagages et sont parties. Celles qui arrivent à vivre dans un pays qui mène cette guerre et se taire, parce qu'en fait c'est ça aujourd'hui le prix de la liberté, c'est le silence, et forcément le silence dans cette situation, c'est un silence complice.
Puis enfin, récemment, retour peut-être sur votre premier film rapidement, dans la région de Bakhmout, récemment cette milice Wagner a décidé de s'en aller. Est-ce que c'est pas là aussi peut-être un tournant pour cette guerre finalement?
Je ne me prononcerai pas sur le tournant ou pas tournant, parce que la milice Wagner a menacé 3 fois de partir, et puis après elle est revenue, puis après elle est repartie, puis après elle est revenue. Les annonces d'Evgeny Prigogine ne sont pas forcément toujours à prendre à la lettre et ne sont pas toujours forcément à considérer comme étant pure vérité. Il faut faire extrêmement attention, c'est quand même un maître de la manipulation et de la désinformation, avant tout. Depuis mars 2022, les hommes de Wagner combattent en Ukraine. Ils ont combattu un petit peu partout, pas seulement à Bakhmout. Il n'est pas exclu qu'ils continuent un peu à le faire, mais aujourd'hui, la priorité d'Evgeny Prigogine, c'est aussi de sauver son business, parce que ce n'est pas seulement le commandant du groupe Wagner, c'est aussi un entrepreneur d'influence qui a énormément d'enjeux et énormément de billes dans des pays, notamment africains comme la Centrafrique et le Mali. Ils s'implantent au Soudan, ils ont des vues sur le Burkina Faso et encore d'autres zones. Et ils ont énormément à perdre à laisser pourrir la situation sur le front ukrainien. Donc il y a un redéploiement d'hommes qui sont en train de quitter Bakhmout pour rejoindre les bastions de Wagner en Afrique, notamment en RCA et au Mali.
Et enfin, la question bonus, comment vous voyez la position de Volodymyr Zelensky pour gérer justement ce conflit? Qu'est-ce que vous en pensez, vous, en tant que journaliste?
En tant que journaliste, je ne sais pas. En tant que... d'un point de vue citoyen, je trouve que ce type est absolument incroyable.
Il est parti presque de rien, même, d'ailleurs.
Non, il n'est pas parti de rien. Il pesait plusieurs millions de dollars, quand même, quand il a été élu. Il n'est pas totalement parti de rien. Il avait une énorme structure, une grosse boîte de production. Il était multimillionnaire. Une boîte de prod qui cartonnait, des films à succès, des séries qui avaient des millions de fans. Donc, ce n'est pas totalement un inconnu qui est parti de rien. C'est un maître aussi dans la communication politique, du fait de sa dernière production qui était l'histoire donc d'un prof d'histoire qui devenait président. Donc il n'était pas totalement étranger au monde de la politique, mais c'était un monde fictionnel qui était le sien. Et puis là, il est confronté à la réalité, à une réalité qui est extrêmement dure. Là où tout le monde pensait qu'il allait faire le jeu des Russes, parce que lui-même était très populaire en Russie, il y allait très souvent, lui-même était issu aussi d'une famille russophone, donc beaucoup de gens pensaient qu'il allait plier les Chines à un moment donné. Il a fait preuve d'un courage exceptionnel. Et la phrase qui restera aussi dans l'histoire, c'est quand les Américains lui ont proposé de l'évacuer de Kiev, parce que justement, les premiers jours de la guerre, il y avait des bombardements si massif que tout le monde craignait pour sa sécurité, et il a dit je ne veux pas un taxi, j'ai besoin d'armes. Et en fait, cette déclaration qui est maintenant taguée sur les murs de Kiev, c'est assez marrant parce que partout où vous vous baladez, vous voyez cette citation qui est écrite. c'est aussi un signe de détermination, de courage. Et puis surtout, il n'a pas laissé son peuple tout seul. Il ne s'est pas enfui. Il aurait pu partir. Il aurait pu partir. Il ne l'a pas fait.
Pendant 8 ans, les combattants armés par Moscou s'opposent aux troupes ukrainiennes loyalistes, pro-européennes. Avec ses 13 000 morts, le Donbass devient une plaie béante. Le cœur qui saigne de la grande famille slave. Le 24 février 2022, Vladimir Poutine va encore plus loin. Il lance un assaut sur toute l'Ukraine. Il ne s'attendait pas à ce que l'usage de la force se retourne contre lui.
Nous vivons une sorte de renaissance de la nation ukrainienne. Qu'a obtenu Poutine avec cette guerre? Il a uni la nation ukrainienne comme jamais. Nous ne sommes plus divisés. Nous sommes devenus un seul point fermé. Et avec ce point, il va recevoir un grand coup dans la gueule.
C'était un entretien avec Xenia Bolchakova, l'une des réalisatrices du film documentaire « Ukraine, la fin d'un monde russe » et co-réalisé avec Philippe Lanier. Il était proposé dans la catégorie des films de plus de 40 minutes lors de la 30e édition du FIGRA, Festival international du grand reportage d'actualité et du documentaire de société, qui s'est déroulé à Douai du 30 mai au 4 juin.